exceptionnellement cet après-midi. Pas d'émission passage. Je vous propose tout de suite de retrouver sur notre radio une méditation de Daniel Vigne, suivie de l'émission Rencontre sur Radio Présence.
Le christianisme, chers amis, est la religion de la joie. Là où cette joie rayonne, réchauffe, ravive la vie et lui rend ses couleurs, là est l'esprit du Christ. Là où on fait grise mine, que ce soit sous prétexte de sérieux, de compétence, de moralité, de solennité ou même de religiosité, là est le vieil homme avec ses vieilleries. Certes, il sait faire bonne figure, ce vieil homme, et se donner l'apparence du bien-être, que ce soit en costume chic, en vêtements de marque ou en jean déchiré. Que de masques, que de déguisements sous lesquels nous tentons de donner le change, de dissimuler nos tristesses. Mais tous ces faux-semblants, ces mensonges, Dieu est un feu qui les consume, qui nous visite en profondeur, qui nous libère de l'amertume, qui nous partage sa joie. Joie qui n'est pas un masque de plus, mais un baume qui tapisse le fond du cœur. Joie qui n'est pas une bonne humeur naturelle, une hilarité facile, un optimisme de surface, mais une disposition surnaturelle et spirituelle. Joie qui ne dépend pas des événements, mais qui s'impose à eux et qui les illumine. Je me reproche parfois de ne pas faire suffisamment briller ce flambeau, puisqu'à moi aussi, en tant que chrétien, il m'est confié comme un trésor. Mais ne serais-je pas stupide de m'attrister de ne pas être assez joyeux? Ce serait aggraver encore le problème. Laissons donc de côté toutes les tristesses qui nous encombrent. Accueillons tout dans la lumière de l'allégresse. Repeignons tout aux couleurs de la joie.
Radio, un seul nom, Présence, la radio chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin.
Bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Priscilla Decelle. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Alors, vous êtes la rédactrice en chef du journal Paris Notre-Dame du diocèse de Paris. Et comme vient de le dire Sophie, le numéro du 25 avril 2019 consacre un dossier spécial au dramatique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Les locaux de la rédaction, en plus de Paris Notre-Dame, se trouvent rue du Cloître, donc cette rue qui longe la cathédrale. Priscilla Decelle, comment est-ce que vous avez vécu ce drame? Est-ce que vous étiez sur place à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Alors nous, on était sur place, je dis nous, parce qu'on était plusieurs personnes de la rédaction de Paris Notre-Dame à finir le pré-bouclage du numéro précédent. Mmh. Et donc moi, quand je suis sortie, il y avait déjà un panache de fumée qui sortait, qui partait de la flèche. Et en fait, la première chose auquel on pense, c'est non, c'est pas possible. Notre-Dame ne peut pas brûler. Notre-Dame ne peut pas brûler. Et en fait, à mesure que les flammes avançaient, moi, je suis restée sur place jusqu'à 21h, jusqu'à ce que les forces de l'ordre nous évacuent. Mmh. On était là, c'était une incrédulité générale. Et quand la flèche est tombée, il y a un cri qui s'est élevé de la foule. C'était... Voilà, on a tous été traumatisés, j'en ai encore...
Un bruit terrible en
plus. J'ai encore des frissons quand j'en parle. Oui, un bruit, et puis cette incrédulité. Notre-Dame, c'est l'église mère du diocèse. C'est une église extrêmement campée, extrêmement majestueuse, extrêmement maternelle, extrêmement solide. Elle c'est pas la plus belle, mais c'est la plus solide. Elle a un
cœur de Paris
extrêmement rassurant. Et la voir ainsi ravagée par les flammes. Et en plus, je fais partie de ceux qui ont eu le privilège de se balader dans cette forêt, ces poutres magnifiques, toute cette charpente de bois qui datait du XIIIe siècle. Et donc, je mesure ce qui a été détruit, parce que beaucoup de choses ont été détruites. Il faut quand même le rappeler, même si on est incroyablement surpris par le fait que beaucoup de choses sont encore en état, mais beaucoup de choses ont également été détruites.
Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière qui régnait au sein de la maison diocésaine ce soir-là ?
Oui, en fait, alors du coup, vous l'avez dit, les locaux du cloître Notre-Dame ont été fermés, on ne pouvait plus. Donc en fait, il y a une grosse centaine de personnes qui travaillent à cet endroit-là. Donc on a tous été éparpillés dans Paris. Heureusement, le diocèse de Paris a plusieurs bâtiments comme ça qui ont pu nous accueillir. Nous, on s'est retrouvés à l'archevêché. Mm-hmm. Voilà, donc on était avec Monseigneur Aupetit tous les jours pour essayer de travailler au mieux avec les moyens qu'on avait qui étaient un peu précaires. Voilà. Mm-hmm. Mais oui, on a tous été extrêmement... touchée, mais alors de façon un peu traumatisée, certes, mais aussi extrêmement touchée par le fait qu'il y ait cette mobilisation.
Cet élan d'émotion.
Oui. Moi, j'en parlais avec plusieurs prêtres de Paris qui disaient pour la première fois depuis très longtemps, on nous invite sur des plateaux de télé pour parler de choses positives, enfin, de parler d'émotion, de foi, de catholique, enfin, et pas parler de scandale et voilà. Et en fait, moi je me suis réveillée, je me rappelle le 16 avril, au matin, j'écoutais France Inter, et quand j'ai entendu ces témoignages qui affluaient du monde entier, qui étaient extrêmement touchés par la perte de Notre-Dame, en tout cas par une partie de Notre-Dame, je me suis dit, mon Dieu, c'est une grâce, cette cathédrale, la Vierge Marie, elle est dédiée à la Vierge Marie, a réussi cet exploit formidable, dans une nuit, de retourner l'opinion par rapport aux catholiques. Voilà. D'un coup, on s'est senti entouré, embrassé. C'était assez étonnant quand même.
Et vous le dites en préambule donc, de ce fameux numéro Paris Notre-Dame, depuis le 15 avril, le diocèse reçoit énormément de témoignages du monde entier. Est-ce que ces témoignages... Alors déjà, quelle est la teneur de ces témoignages ? Est-ce que ça concerne des croyants, mais aussi des non-croyants ?
Mais tous. C'est Monseigneur Aupetit, je crois, qui disait que c'est l'église de tous. En fait, Notre-Dame, quand vous y allez, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il n'y a pas que des cathos qui vont à Notre-Dame. Et tous ont beaucoup été touchés. Il a cité Haïm Garcia comme un des premiers témoignages qu'il a reçu, le grand rabbin de France. Moi, j'ai un ami qui était au Japon à ce moment-là, et il y a un Japonais qui est venu le voir pour lui dire « Je sais que vous êtes français ». Voilà, j'ai un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez le donner à la cathédrale ? C'est incroyable. Les Japonais, ils n'étaient pas catholiques. Hein, donc, et puis le Japon, c'est quand même très loin de chez nous. Mais il y a... C'est Notre-Dame, quoi. C'était heureusement, il n'y a pas eu de mort. Ça, on peut encore rendre grâce à Dieu. Mais c'est Notre-Dame, quoi. Et c'est un des bâtiments les plus visités d'Europe. 13 millions de visiteurs par an.
Ouais,
donc voilà, c'est une popularité.
Chacun a son histoire.
On ne mesure pas.
Avec Notre-Dame, en fait.
Exactement.
Et cette communion, cette émotion, d'après vous, elle est encore intacte aujourd'hui, plus de 15 jours après l'incendie ?
Je crois que les dons continuent à affluer, ce qui est quand même un bon signe de ça. Et puis, oui, on a encore des témoignages. Et puis, moi, je vois sur les réseaux sociaux les photos de ceux qui travaillent aujourd'hui sur Notre-Dame à la mettre hors d'eau, à préserver ses œuvres. La Vierge au pilier a été changée. Elle est maintenant en sûreté, elle est sauvée. Il y a toute une mobilisation, il y a des gens qui travaillent, c'est un chantier, c'est devenu un chantier. Il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que les gens vont venir en pèlerinage maintenant sur les lignes Notre-Dame pour voir cette cathédrale panser ses plaies.
Et se reconstruire progressivement. Comment est-ce que vous avez construit ce dossier exceptionnel sur Notre-Dame ? C'était pas du tout prévu au départ,
non,
évidemment.
Non, c'était pas prévu. Et puis nous, on est une petite rédaction, on n'a pas les moyens des grands journaux. Donc on s'est dit, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut rendre hommage et donner la parole à ceux qui ont quelque chose à dire sur Notre-Dame ? Notre-Dame, mais pas des experts ou pas des architectes, voilà, mais des gens qui la connaissent intimement, pour qui Notre-Dame signifie quelque chose. C'est pour ça qu'on a notamment interrogé Sylvain Dubuisson, qui est architecte designer, qui n'est pas un catho affiché, enfin, c'est pas du tout un témoignage de foi qu'il nous donne. Mais lui, je l'avais rencontré parce qu'il a fait une crèche pour les églises parisiennes, une très belle crèche d'ailleurs, et il m'avait dit, quand je vais pas bien, je vais régulièrement m'asseoir sur le parvis de Notre-Dame pour la regarder, parce qu'elle est campée, elle est tellement solide et rassurante qu'elle me redonne la pêche. Donc je l'ai appelé gentiment, il a répondu à ma sollicitation. Il y en a d'autres comme ça, on est tous très touchés. Enfin, moi je pense notamment aux gens qui travaillent à Notre-Dame, il y a près de 70 personnes quand même, salariés de Notre-Dame.
La maîtrise
notamment. Oui, la maîtrise, ceux qui chantent, ceux qui font le ménage, les agents de sécurité, les agents d'accueil, ceux qui vendent, les objets liés à Notre-Dame. Enfin, il faut penser à tout cela. Moi j'ai une pensée particulière pour André Finot, qui est le porte-parole de Notre-Dame, et pour Monseigneur Chauvet, qui est le recteur archiprêtre de Notre-Dame, qui sont des amoureux de cette cathédrale et qui se retrouvent aujourd'hui, à essayer de faire au mieux dans l'urgence, quoi.
Et vous avez aussi interviewé dans les témoignages qui figurent dans le dossier Thierry Deslauriers, qui est directeur général de l'association Aux Captifs la Libération. Et j'ai trouvé une phrase très jolie qui dit « Même les choses les plus douloureuses peuvent avoir une fécondité inattendue. Dans cette épreuve, rien n'altère mon espérance. » Et c'est vrai qu'en lisant tous les témoignages que vous avez recueillis, et puis ce qu'on a entendu aussi dernièrement dans les médias et plus généralement, ce qui frappe souvent, c'est que ce drame a redonné de l'espérance.
Oui, d'ailleurs c'est le titre c'est Entrer dans l'espérance. Il faut savoir que quand on a... Ce journal-là, ce numéro-là, devait être, la double page devait être consacrée à la Semaine Sainte, normalement. Et notamment, Monseigneur André 23 nous avait dit que ce serait bien que vous redonniez l'espoir et que vous souligniez que les chrétiens doivent être des êtres d'espérance, même dans les épreuves. Et là, il faisait allusion à tous les scandales que secoue l'Église. Et en fait, tout d'un coup, on s'est retrouvé à recueillir des témoignages d'espérance de gens qui en fait nous parlaient de Notre-Dame, et ça, c'est un symbole, Notre-Dame, de ce que traverse l'Église catholique. Enfin, honnêtement, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'elle a été tourmentée, elle a été mise à bas, avec raison, hein, c'est pas du tout... elle a été mise à l'index, accusée, et parce que coupable, mais elle est debout. C'est-à-dire que l'Église catholique, c'est pas uniquement ceux qui ont fauté, ceux qui ont péché, c'est nous, l'Église catholique. Et nous, en tant que laïcs, en tant que clercs, en tant qu'ordonnés, on doit rester debout, et nous sommes ces piliers, quoi. Nous sommes les piliers de Notre-Dame qui ont résisté au feu. Nous sommes les piliers de l'Église catholique qui, malgré les scandales, rappellent que l'Église, c'est pas que une institution. C'est d'abord une communauté de gens qui croient en une même foi, que Dieu sauve, que le Christ est venu pour nous. On vient de vivre la Semaine Sainte et qu'il est mort pour nous. Quel plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Moi, je pense aux pompiers qui, certes, ne voulaient pas donner leur vie quand ils sont entrés dans Notre-Dame, mais qui ont pris un risque phénoménal. Je les ai vus tout petits dans les tours de Notre-Dame aller au devant des flammes. Et vous avez juste envie de leur dire, mais barrez-vous, quoi. Restez pas là, vous allez vous faire...
risquer leur vie à chaque moment.
Moi, j'ai une admiration sans borne pour les 400, près de 400 pompiers qui ont été mobilisés sur Notre-Dame. Voilà. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et nous, chrétiens, on a un devoir d'espérance. Toujours ancré au plus profond, dans la tourmente, surtout dans la tourmente.
Et c'est vrai qu'il y a eu une succession de signes, Priscilla de Sel, je trouve, quand vous voyez cette cathédrale, cette Notre-Dame brûlée, et qu'ensuite on voit finalement tout ce qui est resté intact de manière presque miraculeuse. Enfin, quand on voit la croix dorée de l'hôtel, quand on voit la Vierge au pilier.
C'est la photo de Ludovic Marin, qui est photographe à l'AFP.
Magnifique, cette photo.
Magnifique, a été prise au téléobjectif depuis l'entrée de la cathédrale, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas entrer, les pompiers barrés. Donc, il a pris ça au téléobjectif, et cette croix qui surgit du noir, c'est exactement ça. C'est Pâques.
Et de la même manière que cette croix en feu, quand on voit les photos qui surplombent Notre-Dame et qu'on voit cette croix en feu, mais Notre-Dame qui reste debout et tous ces trésors qui ont pu être sauvés in extremis, on se dit, on peut y voir qu'un signe, quoi. On peut y voir qu'un signe de maintenant, il va falloir reconstruire les choses.
Je crois que tous les croyants y voient un signe. Je crois que tous ceux qui ont souffert avec ces mois difficiles, ces années difficiles, tout cela, on y voit un signe, c'est clair.
Et cette espérance, cette unité, cette confiance, en lisant aussi ce dossier de Paris Notre-Dame, on se dit qu'elle est très incarnée aussi par Monseigneur Michel Aupetit, qui rassemble, ou en tout cas qui a un discours très, très plein d'espérance et de rassemblement pour les chrétiens.
Moi, je l'ai trouvé transfiguré par cette épreuve. Monseigneur Aupetit, ça fait plus d'un an qu'il est à la tête du diocèse de Paris. Il a vécu une épreuve qu'aucun de ses prédécesseurs n'a vécue quand même. Il a été comme nous... traumatisé par ces flammes, il a été stupéfait, il a été sidéré, voilà, c'est le mot que je cherche. Il a été sidéré par ce qui se passait, mais après, il a été extrêmement dynamique, il a encouragé ses équipes, il était là auprès des catholiques, il a prié avec les jeunes qui étaient auprès de la fontaine Saint-Michel, à la messe de Chrismal à Saint-Sulpice, il a eu des paroles magnifiques. Moi, j'ai vu des choses très, très belles durant cette messe.
Quelle atmosphère régnait d'ailleurs pendant ces deux, cette messe et puis celle ensuite à Saint-Eustache?
C'était très, très étonnant parce que moi, j'ai vu des, j'ai vu des journalistes aller communier. Moi, en tant que journaliste, quand je bossais ailleurs que dans le diocèse, j'allais jamais communier quand j'étais à la messe, quand j'étais en fonction, en service, entre guillemets. Mais là, je les ai vus parce qu'on avait besoin de se serrer les coudes, quoi. Et il y avait un truc très joli quand j'ai essayé de rentrer rue du Cloître Notre-Dame pour récupérer notamment des affaires quelques jours après. J'ai été arrêtée par un gendarme qui a fait son boulot, c'est-à-dire qu'il m'a dit, écoutez, là, c'est trop dangereux. Et à un moment, je lui ai dit en plaisantant, écoutez-moi, monsieur, je suis protégée par l'Esprit-Saint. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, madame, nous sommes tous protégés par l'Esprit-Saint.
Et on va finir sur ces magnifiques mots. Mais merci,
Prisca. Est-ce que je peux juste dire qu'il y a un très beau dossier sur le synode des jeunes et sur l'exhortation apostolique qui vient de sortir? Il ne faut pas oublier quand même que nous avançons et que l'Église avance et que le message que le pape François a donné aux jeunes et au monde est un message qu'il faut lire absolument. Cette exhortation apostolique Christus vivit, elle est très belle, il faut la lire.
Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du journal Paris Notre-Dame. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Be praise and honor and glory and power to him who sits on the throne and to the Lamb. Be praise and honor and glory and power forever and ever.
Forever and ever.
Forever and ever.
Vous l'avez certainement entendu aujourd'hui, le fondateur de la communauté de l'Arche, Jean Vanier, s'est éteint dans la nuit du 6 au 7 mai. Il avait 90 ans. Il a consacré sa vie à l'accueil des personnes handicapées. Je vous propose d'écouter la rediffusion de cette émission en hommage. L'émission de Louis Dauphren s'appelle Le Grand Témoin.
Le Grand Témoin. Le Grand Témoin. Louis Dauphren.
Allez, ce matin, foin des discours de politique générale ou non, je vous propose une rencontre avec un géant du cœur qui a mis sa vie au service de ceux que la société rejette sans doute le plus, à savoir les personnes déficientes mentales. Jean Vanier est une figure mondialement connue, mais pas par tout le monde. Ces communautés de l'Arche répondent aux besoins que toute personne exprime, servir et être aimé dans toutes ses dimensions. On n'est pas un numéro dans ces communautés, on est d'abord un ami et c'est ce qui compte. Alors le vaisseau amiral de l'Arche se trouve non loin de Compiègne, dans l'Oise, à environ une heure de Paris, sur la commune de Trolibreuil. C'est là que Jean Vanier nous a reçus il y a quelques mois et je vous propose donc d'écouter cet entretien. Jean Vanier, notre grand témoin ce matin. Jean Vanier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Trolibreuil. On est dans l'Oise, non loin de Compiègne, non loin de la clairière de Rotonde. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux où vous vivez, où la communauté de l'Arche s'est installée pour la première fois ?
Oui, bien, je suis à Trollibroy. À Trollibroy, j'ai vécu ici dans un foyer et j'ai commencé en 1964 en accueillant deux hommes d'une institution assez fermée, même très fermée. J'étais un peu choqué de ce que je voyais. Il y avait 80 hommes qui étaient là. Je ne voulais pas entrer dans l'institution pour y vivre ou travailler. Et j'ai pu accueillir deux hommes, Raphaël et Philippe. Et c'est ainsi qu'on vivait en communauté, on a vécu ensemble, ça a grandi. Et puis maintenant, ici à Trolley, notre communauté, nous avons à peu près 70 personnes avec un handicap dans nos foyers ici. Le même nombre de personnes à qui vivent avec. Mais en même temps, il y a trois autres communautés, à Cuise-la-Motte, à Pierrefonds, Compiègne. Donc dans la région, nous devons être à peu près 250 personnes fragiles et le même nombre d'assistants, avec aussi beaucoup de jeunes en difficulté qui viennent dans nos ateliers. Alors, et aujourd'hui, je suis dans une petite maison qui a été aménagée pour moi. Je suis dans mon bureau, je suis très bien dans mon bureau. Il y a tous mes livres en face, il y a un canapé. Et quand je regarde dehors, c'est très beau. Il y a un soleil, il y a un ciel bleu, il y a des oiseaux qui viennent, qui partent. Et juste à 10 mètres d'ici, il y a la chapelle où j'aime beaucoup y aller pour être avec Jésus. Et puis, un peu plus loin, à 50 mètres d'ici, peut-être un peu plus, il y a mon foyer où je prends tous mes repas. Et je suis dans ce foyer, j'étais responsable de ce foyer en 1981. Donc, je suis là dans ce foyer depuis. Je ne suis plus responsable parce que maintenant, j'ai 88 ans. Je suis un petit peu plus âgé que je n'étais. À la ferme qui est juste avec la chapelle, le lieu où je donne des retraites, des conférences, en ce moment, il y a, je crois, 40 responsables de foyers de toute la France qui viennent pour une formation. Alors, je suis là, je donne des conférences, je donne des retraites. Je mange dans mon foyer avec Patrick, Anissette, David et d'autres. Je suis très heureux.
Vous donnez des retraites, mais vous n'êtes pas retraité. Ce n'est pas vraiment un rythme de retraité.
L'âge de retraité, mais pas de rythme. Je suis en bonne santé, je suis bien, et je peux dire que je suis un homme heureux. Il faut que je marche une heure, parce qu'on m'a dit que si je ne marche pas, on perd si on ne les utilise pas. Donc je marche comme je peux tous les jours. Et puis le reste du temps aussi, je reçois des gens et je suis heureux ici à l'Arche, vivant au milieu, je dirais, de mon peuple qui a tellement souffert.
Alors, Jean Vanier, on a une belle vue sur ce saule pleureur qui est en face de votre baie vitrée. La chapelle, vous le disiez, juste à côté, il y a une certaine quiétude parce que ici, les lieux sont à dimension humaine aussi. Hein. Ce sont des maisons dans un village. Ce n'est pas un centre monumental. C'est étendu, mais c'est à dimension humaine.
Oui, c'est dans toute notre vision, c'est de créer des petits lieux. Il y avait autrefois le sociologue anglais Schumacher qui a écrit un livre très important, Small is Beautiful, le petit est beau. Pourquoi? Parce que quand tout est petit, je connais ton nom. C'est ça ce qui est important. Ce n'est pas ta position ou ta responsabilité ou ta fonction qui est important, c'est toi. Donc, le small is beautiful, le petit est important. C'est ça le principe de l'Arche. Créer des petits lieux où on crée un sentiment de famille, un type de communauté nouvelle. On accueille des gens, quelquefois, avec de très lourds handicaps. Et bien sûr, ils restent toute leur vie. On accueille certains qui ont un potentiel et qui commencent, après avoir un temps ici, commencent à vivre seuls et qui trouvent du travail à l'extérieur, etc. Alors, c'est un monde. Mais la plupart de ceux qui viennent ici vont rester, je veux dire, en gros, toute leur vie.
Quels sont les critères pour entrer à l'Arche, Jean Vanier? C'est vous qui recevez
les postulants, d'une certaine façon, les demandes, c'est vous qui les étudiez ?
Il y a, non, pas moi, mais maintenant, il y a, bien sûr, nous accueillons surtout les gens du département de l'Oise, parce que nous sommes financés, je dirais, par le département ou par la région maintenant. Et il y a des demandes, et donc une personne qui s'occupe de tous les services des demandes, parce que ici, dans l'Oise, il y a 5 communautés, un à Beauvais et les autres ici. Et en même temps, nous avons beaucoup d'ateliers ou des gens externes, donc il y a tout un service pour accueillir des parents, accueillir les personnes. Mais il faut dire que pour avoir une place dans un de nos foyers, il faut qu'il y ait un décès, parce qu'on a X nombre de places, mais les gens généralement sont heureux et ils restent vivre.
Vous allez expliquer le fonctionnement, ce qui fait l'identité de l'Arche. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'Arche en soi, qui est présente dans 38 pays, il y a un nombre de communautés très important, je crois que ça s'élève à 150 communautés, 34 en France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après toutes ces années, vous avez fait école ? Autrement dit, est-ce que vous avez été une expérience pilote et que les services publics, est-ce que ceux-ci ont pris acte de votre expérience pour changer le regard sur ce que vous avez appelé les prisons psychiatriques ?
Je dirais oui. Je crois qu'il y a des normes que l'État donne, mais en même temps des évaluations. Et des évaluations très importantes où les gens interrogent et regardent nos dossiers, etc. Et ce qui est évident, c'est que les gens ici sont heureux. Humainement, ce qui est important, c'est que les personnes que nous accueillons sont heureux, progressent dans le monde du travail ou dans le monde, etc. Chacun avec ses capacités qu'on essaye de fortifier. Enfin, il y a, c'est évident qu'il y a de la joie, etc. Et quand il y a de la joie, les gens progressent. Ils veulent grandir, faire autre chose. Donc, je dirais que nous sommes reconnus. C'est que le vivre ensemble est libérant et guérissant.
Voilà un mot à la mode, hein, le vivre ensemble. Mais vous l'utilisez, j'imagine, pertinemment.
Ben, vivre ensemble, c'est prendre tous les repas, c'est d'être dans la même maison. Et c'est... Alors, je dis toujours appartenir pour devenir. Appartenir à une communauté, on est d'un côté, on est une institution reconnue, mais cette institution est aussi un lieu communautaire. C'est-à-dire que nous vivons ensemble et en entamant des relations profondément personnelles avec tous ceux qui sont. Et ce que nous voyons, c'est que ceux qui viennent pour aider, et c'est souvent aujourd'hui, il y en a beaucoup de volontaires civiques, et tous ceux qui sont là, tout le monde est transformé. Transformé dans le sens, on apprend à accueillir l'autre différent avec qui il y a une coopération. Il est peut-être très différent de moi, mais en vivant ensemble, on découvre combien il y a de la valeur en toi. Tu es beau. Alors, ceci, d'une façon très particulière, les personnes avec un handicap, parce que les personnes avec un handicap sont pas très douées au niveau rationnel, au niveau intellectuel, mais au niveau du cœur, au niveau de la rencontre, ils sont d'une simplicité, d'une ouverture et d'une qualité d'amour et de simplicité qui est touchant. Alors, beaucoup de jeunes volontaires civiques viennent ici.